Et nous retrouvons Camille Magnard pour le journal de la rédaction. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous.
Des formules percutantes, à la fois nécessaire concertation de tous les intérêts.
Que restera-t-il de l'objectif de ce zéro artificialisation nette des sols naturels brandi par le gouvernement? De nombreux projets d'aménagement du territoire, de construction d'usines devraient échapper au droit à bétonner. Nous ferons le point en début de journal avec Catherine Pétillon. Quelle leçon tirer des 11 nuits d'émeute de fin juin 2023 après la mort de Naël Mezrouk lors d'un contrôle de police? Un rapport d'enquête sénatoriale remis hier dresse le bilan chiffré des dégradations. Il pose aussi des enseignements pour l'avenir, nous dira Sophie Delpont. Une autre enquête qui embarrasse l'exécutif en pleine opération Place Net XXL contre les trafics de drogue, c'est l'office de la police anti-stupéfiant de Marseille qui fait l'objet d'une enquête donc pour corruption lancée par l'IGPN. On fera le point depuis la cité phocéenne avec Mathilde Vinceneux. Notre invité dans ce journal, ce sera Rémy Bourguignon, spécialiste de la démocratie sociale en France. Après l'échec des récentes négociations entre syndicats et patronats sur le pacte de la vie au travail, nous irons en Ukraine où le Parlement vient d'adopter la nouvelle loi de mobilisation militaire après une nouvelle nuit de bombardements russes massifs sur les réseaux électriques. Et puis Antoine Guillot nous rejoindra pour nous livrer la sélection officielle du prochain Festival de Cannes. Elle vient tout juste d'être dévoilée, cette sélection, avec notamment le retour annoncé de Francis Ford Coppola. Zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 en France. C'est la promesse du gouvernement et de sa loi climat, adoptée il y a déjà 2 ans et demi, pour protéger les terres naturelles des projets de bétonisation et leurs conséquences sur l'environnement. Beaucoup d'opposition, on le sait, des élus locaux qui veulent pouvoir continuer à construire des logements. Opposition également des industriels au moment où la France mise sur sa réindustrialisation. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Camille.
Il y a quelques jours, Bruno Le Maire a, semble-t-il, tenté d'obtenir que les projets industriels soient exclus de cette ZAN, zéro artificialisation nette. Le ministre de l'économie n'a pas eu gain de cause, mais pourtant, Christophe Béchu, à la transition environnementale, annonce aujourd'hui que tous les chantiers industriels déjà lancés vont pouvoir sortir de terre.
Oui, on est là au cœur du problème. Comment concilier les objectifs de politiques publiques différentes, voire potentiellement contradictoires? D'un côté, réindustrialiser, soutenir la création d'entreprises, c'est ce que porte le ministre de l'économie. Et de l'autre, répondre aux enjeux climatiques en limitant la bétonisation des sols. En 2023, face aux contestations locales et aux difficultés de mise en œuvre pointées, une nouvelle loi a été adoptée pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif zéro artificialisation nette. Et notamment, modifier la manière de considérer la consommation d'espace. Cette loi, elle prévoit une enveloppe nationale de 12 500 hectares pour la décennie 2021-2031, enveloppe dédiée à des projets dits d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur. C'est une manière en fait de ne pas empêcher des trajectoires de développement régional ou local. Par exemple, éviter qu'une commune qui a un gros projet d'infrastructure utile à toute la France ne puisse plus construire un seul logement. Alors sur les 750 projets proposés par les régions, 450 ont été retenus comme d'envergure nationale ou européenne, avec une première liste de 167 projets dits matures, comprendre, dont on peut déjà évaluer les effets en termes d'artificialisation. Citons par exemple un site d'Airbus en Occitanie, une usine Toyota dans le Nord, l'axe ferroviaire Lyon-Turin, le port fluvial d'Aropa à Rouen, les parcs éoliens en Sud-Bretagne, 3 EPR ou encore un centre d'enfouissement de déchets dangereux. On y trouve 30% de projets industriels. Tous les projets industriels présentés ont été retenus, assure Christophe Béchu, soucieux de mettre en avant la compatibilité entre environnement et développement économique, surtout après l'offensive du ministre de l'économie que vous évoquiez. Autre piste mise en avant pour réindustrialiser sans davantage bétonner les 170 000 hectares de friches du pays, des zones déjà considérées comme artificialisées, mais aujourd'hui inutilisées.
Merci Catherine Pétillon. Les violences urbaines du mois de juin 2023 ont fait 4 fois plus de dégâts matériels que celle de 2005. C'est l'un des chiffres qui ressort du rapport d'enquête sénatoriale rendu public hier sur ces 11 journées, 11 nuits d'émeutes à travers la France, flambées de colère et de violence qui faisaient suite, on s'en souvient, à la mort de Naël Mezrouk, 17 ans, tué lors d'un contrôle de police. Le rapport chiffre donc à 1 milliard d'euros le montant total des dommages aux biens suite aux 16 400 sinistres déclarés aux assurances. Mais bien au-delà de ce bilan comptable, Sophie Delpont, l'enquête des sénateurs nous en apprend plus sur le déroulement de ces nuits d'émeute et formule aussi des préconisations pour en tirer les leçons.
Le rapport du Sénat souligne un basculement des émeutes vers une phase insurrectionnelle à partir du 30 juin, une phase marquée par une expansion territoriale fulgurante des violences à l'ensemble du territoire, sous la forme d'une vague de destruction et de pillage sans précédent menée par 50 000 émeutiers selon ce rapport, avec pour cible prioritaire les symboles républicains, l'incendie ou la dégradation notamment de 273 bâtiments des forces de l'ordre, 105 mairies et 243 écoles. Après le constat, le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet présente une série de 25 propositions, notamment l'encadrement de l'achat de mortiers en interdisant la vente en ligne et par voie postale. Le rapport préconise aussi l'amélioration de la formation des forces de l'ordre en créant des unités spéciales à l'intervention en contexte émeutier et une meilleure coordination des polices entre elles. Mais la mesure phare préconisée est la possibilité de contrôler les réseaux sociaux en cas d'émeute, car les réseaux ont permis aux émeutiers de s'organiser facilement. Selon le sénateur LR, il faut créer un cadre, une fois l'état d'urgence décrété, pour permettre au préfet de solliciter, pour une durée limitée, la désactivation de certaines fonctionnalités, comme la géolocalisation et la fonction qui permet de diffuser des vidéos en direct en cas de flambée des violences. La sénatrice PS de Seine-Saint-Denis, Corinne Narasiguin, précise « Il y a un travail d'équilibre à faire sur le respect des libertés publiques autour de cette proposition. Elle regrette aussi qu'il n'y ait pas de préconisation dans ce rapport pour lutter contre la détérioration des rapports entre policiers et jeunesse, selon ses mots. »
Sophie Delpont, la ville de Marseille, décidément au cœur des enjeux liés à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Après la visite très médiatique d'Emmanuel Macron pour lancer les opérations policières dites « Place Net XXL », après les magistrats qui dénonçaient les insuffisances des moyens dont il dispose face aux narcotrafiquants, magistrat d'ailleurs copieusement recadré ensuite par le garde des Sceaux, Marseille se retrouve au cœur de l'actualité avec cette enquête ouverte par l'IGPN, la police des polices, sur des soupçons de corruption dans les services de la police anti-stupéfiants. Voilà qui fait un peu tâche, forcément, précision depuis Marseille avec Mathilde Vinceneux.
Oui, c'est la hiérarchie de la police judiciaire marseillaise elle-même qui a signalé au procureur de la ville que des vérifications devaient être faites sur le comportement d'agents de l'office anti-stupéfiants lorsqu'ils travaillaient sur une enquête en 2023. Il faut savoir s'il y a eu des dérives, précise une source policière. Les soupçons de corruption et de violation du secret de l'enquête, notamment, portent sur un groupe d'enquêteurs ou une partie de ce groupe. Lors de la perquisition menée par l'IGPN, la police des polices, dans les locaux de l'antenne marseillaise de l'OFAS, des téléphones portables ont été saisis, mais à ce stade, il n'y a pas eu de garde à vue. Le procureur de Marseille indique qu'il ne fera aucun commentaire, mais lors de son audition il y a un mois devant la commission d'enquête parlementaire sur le narcotrafic, Nicolas Besson avait fait part de son inquiétude, évoquant les moyens infinis des réseaux criminels. « Nous avons de plus en plus de problèmes de corruption de fonctionnaires de police », avait expliqué le procureur.
La démocratie sociale en France est-elle arrivée au bout de son modèle ?
Modèle archaïque selon l'Organisation patronale des artisans et des indépendants, l'UDP. Voilà ce qu'on peut entendre depuis mardi soir, depuis l'échec acté entre syndicats et patronats des négociations sur un nouveau pacte de la vie au travail. On en parle ce midi avec notre invité. Bonjour Rémi Bourguignon.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est Créteil, spécialisé sur les questions de dialogue et de négociation sociale. Alors ce pacte de la vie au travail, pour rappel, c'était une série de négociations entre partenaires sociaux ouvertes par Emmanuel Macron pour faire suite au mouvement social massif de la réforme des retraites l'an dernier. L'accord qui a finalement été négocié sur les conditions de travail, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, devrait, sans surprise, être refusé par la plupart des syndicats. Alors comment est-ce que vous expliquez cet échec du dialogue, de cette séquence entre syndicats et patronat ?
Il est important de noter dans un premier temps que les partenaires sociaux avaient un intérêt a priori à se mettre d'accord pour reprendre la main sur le dossier. On a suffisamment reproché à l'exécutif durant la réforme des retraites de se passer des camps intermédiaires, qu'il y avait là une opportunité pour reprendre la main sur le dossier. Or, en ne s'entendant pas, eh bien finalement, ils renvoient la balle dans le camp du gouvernement qui va désormais avoir les mains libres pour réformer. Ce que ça nous dit, ça nous dit que malgré cette incitation extrêmement forte, eh bien les partenaires sociaux n'ont n'ont pas réussi, ce qui veut dire qu'on a bien sous-estimé les questions soulevées par l'emploi des seniors. On est rentré, le gouvernement a posé cet enjeu de manière assez simple, presque un peu naïve autour de quelques paramétrages économiques. En réalité, on voit que ce sont des questions beaucoup plus lourdes et qu'il aurait fallu un temps de travail plus long.
Donc, des questions qui posent des questions fondamentales pour le rapport au travail et...
Exactement. Voilà. Sur l'organisation du travail, le changement des conditions de travail, ce qui ne peut pas se changer par la négociation ou par une décision gouvernementale, mais ce qui suppose un travail au plus près de la réalité du terrain dans chacune des entreprises. Et là, c'est un projet probablement qui doit s'étaler sur plusieurs années et qui doit mobiliser un très grand nombre d'acteurs.
On a pu voir des représentants du patronat qui semblaient décider à ne rien céder. En tout cas, les lignes rouges ont tenu et donc les négociations n'ont pas pu aboutir sur un compromis. On a vu aussi l'organisation patronale UDP dont on parlait, qui disait que le MEDEF avait tenu seul les clés du camion dans ces négociations. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi un problème dans la représentativité patronale avec un MEDEF tout puissant ?
Oui, en général, le MEDEF est de loin l'organisation la plus puissante parmi les organisations patronales et souvent celle qui donne un peu le tempo et le rythme dans ces négociations. Et sur certains sujets, lorsqu'il y a des désaccords importants entre les employeurs, notamment suivant la taille de l'entreprise, eh bien, c'est souvent le MEDEF qui a le dernier mot. On a vu effectivement le MEDEF sur une position assez ferme dans cette négociation, qui ne cachait pas non plus des désaccords internes avec des gens qui auraient aimé que la négociation aboutisse. Il y a eu des tentatives quand même faites dans les derniers jours pour essayer de faire aboutir, mais également tout un tas d'employeurs qui ont très peur de cette question de l'emploi des seniors, avec le sentiment que ça va coûter extrêmement cher aux entreprises qui joueraient le jeu d'embaucher des seniors. Donc on a vu effectivement une opposition assez classique dans le camp patronal. C'est un des ingrédients probablement de l'échec des négociations.
Et pourtant, vous le disiez, les syndicats et les organisations patronales avaient redit il y a quelques mois encore, avec la négociation UNEDIC, notamment leur volonté de parvenir à des accords pour montrer que la démocratie sociale peut fonctionner, le paritarisme également, face à un État qui préférerait reprendre la main. Du coup, là maintenant, on en est à ce point où l'État a toute la manœuvre pour reprendre la main sur la question de l'assurance chômage en particulier.
Oui, de manière assez claire, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est le gouvernement qui sera à la manœuvre, qui prendra sa décision, et il en sera parfaitement légitime puisque la démocratie sociale n'a pas permis d'aboutir. En revanche, ce qu'on va observer, c'est que le gouvernement va se confronter exactement aux mêmes questions que celles auxquelles sont confrontés les partenaires sociaux. Donc on risque d'avoir en fait une réponse, j'allais dire un peu à minima, mais une réponse avec un regard strictement économique ou budgétaire sur la question. On va reparamétrer l'assurance chômage, on peut bouger quelques paramètres aussi sur les indemnités de licenciement, etc. Mais on ne saisira probablement pas la question fondamentale qui est celle qu'il faut poser si on veut parler du maintien en emploi des seniors, qui est la question du travail, des conditions de travail et de son organisation.
Merci beaucoup Rémi Bourguignon, directeur, je le rappelle, de l'Institut de Recherche en Gestion de l'Université Paris-Est à Créteil. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation de cette interview.
12h43 sur France Culture, la suite de votre journal. Camille Manière, on part en Ukraine. L'Ukraine qui a vécu une nouvelle nuit de frappes aériennes russes.
Oui, plus de 40 missiles, 40 drones également lancés par la Russie. C'est ce qu'indique ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ces missiles, ces drones ont visé à nouveau des infrastructures énergétique ukrainienne. Ils ont fait au moins 2 morts et 4 blessés, ainsi que des dégâts particulièrement importants dans la région de Kharkiv, où se trouve notre correspondante Agathe Mahuet. Moscou intensifie ses bombardements très ciblés ces dernières semaines, Agathe.
Et la défense anti-aérienne ne parvient pas à tout intercepter. Cette nuit, la majorité des drones Shahed lancés par la Russie ont pu être abattus, mais une vingtaine de missiles sont passés au travers des filets, dont 12 missiles S-300, particulièrement destructeurs. Ce sont les infrastructures essentielles que Moscou vise à nouveau dans tout le pays, de Lviv à Odessa, Kiev et dans le nord-est de l'Ukraine où nous nous trouvons, Kharkiv notamment, visé par plus de 10 missiles ces dernières heures. heures, alors que la ville subit déjà depuis 3 semaines d'importantes coupures de courant qui ne vont pas s'arranger. On croit revivre ici l'hiver 2022, quand la Russie s'est acharnée sur le réseau électrique ukrainien, mais c'est sans doute même pire à en croire DETEC, le premier fournisseur privé d'énergie en Ukraine, qui a déjà perdu 80% de ses capacités de production.
Agathe Mahuet, correspondante de France Culture en Ukraine, où la loi tant attendue, tant débattue, surtout sur la mobilisation militaire, a été adoptée ce matin face au manque criant de soldats sur le front pour repousser les offensives russes. La nouvelle loi abaisse de 27 à 25 ans l'âge minimum pour être mobilisé. Elle prévoit aussi de faciliter la mobilisation des détenus dans les prisons ukrainiennes et instaure plus de sanctions pour ceux et celles qui refuseront de combattre. Un nouveau revers militaire, cette fois pour la junte au pouvoir en Birmanie. Ça se passe à la frontière avec la Thaïlande, la ville de Miawadi, dont se seraient retirées les troupes de l'armée birmane repoussées par un assaut des rebelles de l'ethnie Karen. Des centaines d'habitants birmans tentaient depuis hier de passer côté thaïlandais et la prise de ce poste frontière très stratégique est un revers important, un nouveau pour les militaires au pouvoir en Birmanie depuis leur coup d'état de février 2021. Carole Issou.
La ville de Miawadi, à la frontière thaïlandaise, est une plaque tournante commerciale et une étape importante sur un axe appelé l'autoroute de l'Asie. Depuis plusieurs jours, les combats entre les soldats de groupes armés Karen et l'armée birmane y font rage. Des centaines de soldats birmans se sont désormais rendus aux forces rebelles. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères affirme que la Thaïlande est prête à accueillir 100 000 réfugiés birmans supplémentaires, alors que les combats ont déjà déplacé plus de 2 millions de personnes. Soucieux de maintenir une image de neutralité dans le conflit, le voisin thaïlandais accueille les réfugiés des deux camps et a donné une autorisation pour des avions de rapatriement officiel birman. Le pays s'enfonce depuis 3 ans dans la guerre civile et la crise économique. Les groupes armés rebelles gagnent du terrain un peu partout, particulièrement dans les zones frontières avec la Thaïlande, la Chine et l'Inde, face à une armée birmane de plus en plus fragilisée mais qui détient encore les villes et les infrastructures principales du pays.
Carole Issou.
Nous connaissons depuis quelques minutes la sélection officielle du prochain festival de Cannes.
Oui, ce sera la 77e édition du 15 au 24 mai. Thierry Frémaux, le secrétaire général du festival, vient de clore la conférence de presse traditionnelle où sont dévoilés les films en compétition. Et vous l'avez suivi pour nous. Bonjour Antoine Guillot.
Bonjour Camille.
Monsieur Cinéma de France Culture, on ne vous présente plus. Dites-nous donc ce que vous retenez de cette sélection. Le retour en compétition de Francis Ford Coppola.
Oui, tous les grands festivals guignés, Camille, on ne savait même pas s'ils seraient prêts à temps. Et c'est donc chose faite. 45 ans après sa seconde Palme d'Or pour Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 85 ans, revient en compétition avec ce très très attendu Megalopolis, le projet effectivement manifestement très mégalo, à 120 millions de dollars, financé tout seul par le cinéaste sur la destruction et reconstruction d'une sorte de New York du futur. Côté patriarche, on notera aussi la présence de David Cronenberg, 81 ans, pour un probablement très funèbre Les Linceuls, et de Paul Schrader, seulement 77 ans, pour une comédie tout aussi funèbre, avec Richard Gere et Uma Thurman, qui s'appelle Au Canada. Déshabitué aussi, sans doute peut-être moins que d'habitude, l'anglaise Andrea Arnold, l'italien Paolo Sorrentino, le russe Kirill Serebrennikov pour un Limonov, d'après Emmanuel Carrère, et le chinois Jia Zhangke, dont on se réjouit du retour et de la Chine avec lui après les années Covid. Ce qui ne change pas, en revanche, malgré les mots de la présidence Iris Knobloch, qui se réjouissait en ouverture de conf de presse qu'avec Greta Gerwig, présidente du jury, les femmes tiennent cette année, je la cite, le haut de l'affiche, eh bien c'est la place toujours aussi congrue réservée en compétition aux dites femmes. Elles sont 4 cette année, soit 20% seulement des films en lice pour la Palme d'Or.
Et côté français, Antoine, qui pourrait espérer succéder à Justine Triet, la Palme d'Or de l'an dernier avec Anatomie d'une chute?
Eh bien, ils sont 5 cette année, dont un déjà palmé, Jacques Audiard, avec un très curieux projet mexicain avec les stars Zoé Saldana et Selena Gomez. Ça s'appelle Emilia Pérez et ça s'annonce comme une comédie musicale et transgenre chez les cartels. Autre curiosité, signée Christophe Honoré, Marcello Mio ou Chiara Mastroianni incarne le rôle de son père, Marcello Mastroianni, on demande à voir. Et Gilles Lelouch sera là lui aussi avec le très très gros casting de L'Amour Ouf. Et puis, il y a encore 2 jeunes réalisatrices, Agathe Ridinger pour un premier film annoncé comme Dardénien, mais dans le sud de la France, Diamant Brut. Et Coralie Farja, qui est allée aux États-Unis tourner un film d'horreur compromet très très gore, The Substance, avec Demi Moore et Margaret Qualley. Là aussi, on attend de voir.
Antoine Guillot, on saura où vous trouvez donc du 15 au 24 mai prochain au Festival de Cannes. Et puis, on vous retrouve tout toutes les semaines, bien sûr, le samedi. Plan large à 14h sur France Culture. J'en termine avec cette page de cinéma, avec dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, ce matin, les propos du réalisateur Jacques Doyon. Il assure n'avoir jamais promis de rôle à quiconque ni profité de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. Réfutation donc de toutes les accusations d'agression sexuelle formulées contre lui par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche, dont il dit qu'elle a fait de lui son bouc émissaire, le livrant à un effet de meute. Jacques Doyon parle de mensonges, de jalousie, de manipulation face aux agressions, cette fois que lui reprochent Isilde Lobesco et Anna Bouglalis. Pour terminer, un peu de météo, les nuages, des nuages mais peu de pluie sur un tiers nord-ouest de la France. Soleil généreux partout ailleurs cet après-midi avec des températures qui remontent, 14 degrés à Lille, 18 à Paris, Biarritz et Strasbourg et même au-dessus de 20 degrés hein, sur les Alpes et la Méditerranée. Le prochain journal de la rédaction, ce sera à 18h avec Aurélie Kiefer. Quant à cette édition, elle était réalisée avec Waïba Kenache.